Bonjour et bienvenue sur Radio Classique. J'ai le plaisir de vous retrouver en mauvaise compagnie, mais quel écrivain, c'est celle du divin marquis, le marquis de Sade, que nous avions laissé hier après une adolescence un peu mouvementée, sur le point de sombrer dans ce qu'on a appelé ses débauches. Alors, faut bien le dire, ça n'a pas traîné. 5 mois après le mariage, il est arrêté. On l'amène au donjon de Vincennes, sur ordre du roi, motif débauche excessive, aggravée d'impiété. Celle qui a porté plainte s'appelle Jeanne Testard. Elle est ouvrière en éventail, un peu prostituée parce qu'elle n'a pas de quoi manger. Et il l'a entraînée rue Mouffetard où il a loué une sorte de maison secrète où il va comme d'habitude sortir ses martinets et puis faire preuve d'impiété excessive. C'est le moins que l'on puisse dire devant un micro. Et le choc est rude. Jusque-là, la famille avait été épargnée, mais là, ils sont au courant. Arrêtés sur ordre du roi, le rejeton d'une des plus grandes familles de Provence, ça a fait du bruit. Et sa femme l'aime, sincèrement. Sa belle-mère ne résiste pas trop non plus à son charme, mais elle se méfie. La présidente de Montreuil va combattre contre son gendre pendant des années, d'abord pour le sortir de prison et puis pour l'y maintenir. Et au fait, est-ce qu'il aime son épouse, lui ? Oui. Même s'il s'agit d'un mariage arrangé, c'était quoi ? La fortune des Montreuil contre le nom des Sade, et puis elle porte son nom. Alors il va piquer une rage contre l'une de ses tantes religieuses qui lui reproche dans une lettre d'avoir entraîné à Lacoste Mademoiselle de Beauvoisin, qui est actrice de surcroît au Théâtre des Italiens où il l'a fait passer pour son épouse. Et il lui répond « Vos reproches sont peu ménagers, ma chère tante. À vous parler vrai, je ne m'attendais pas à trouver dans la bouche d'une sainte religieuse des termes aussi forts. Je ne permets, ne souffre, ni n'autorise que l'on prenne pour ma femme la personne qui est chez moi. Quand une de vos tantes, mariée comme moi, vivait ici publiquement avec un amoureux, regardiez-vous déjà Lacoste comme un lieu maudit ? Je ne fais pas plus de mal qu'elle, et nous en ferons pour peu, tous les deux. Quant à celui de qui vous tenez ce que vous me dites, mon oncle, l'abbé de Sade, qui réside au château de Somane, tout prêtre qu'il est, il a toujours un couple de gueuses chez lui. Excusez, je me sers des mêmes termes que vous, et si j'ai un reproche à me faire, c'est d'avoir eu le malheur d'y être né dans cette famille. Dieu me garde de tous les ridicules et vices dont elle fourmille. Je me croirais presque vertueux si Dieu me fait grâce de n'en adopter qu'une partie. Recevez, ma chère tante, les assurances de mon respect. » C'était le final de l'été, l'un des quatre petits concertos des quatre saisons d'Antonio Vivaldi, c'était l'orage donc. Et c'était Nigel Kennedy, violoniste virtuose avec beaucoup de tempérament, qui l'interprétait à la tête du Philharmonique de Berlin. Alors notre marquis, eh bien déjà la police le surveille, bien sûr. Mais c'est l'affaire dite Rose Keller qui va mettre le feu aux poudres. Rose a 36 ans, elle est veuve, elle mendie pour élever son fils, elle n'est pas du tout prostituée. Lorsque elle voit arriver le marquis, très élégant, des cheveux blonds, un beau visage, la taille bien prise, et il lui propose quoi ? L'inespéré. Une place de gouvernante au château. Et pour lui en parler, il l'entraîne à Arcueil, dans une maison qu'il a louée, qui s'appelle l'Aumônerie, avec Langlois, son valet, qui est son âme damnée, comme d'habitude, il va l'attacher, la fouetter, bien d'autres choses encore, avec nombre blasphèmes le jour de Pâques. Alors, évidemment, il va être arrêté, elle va porter plainte, et comme d'habitude, comme la famille appartient, je vous l'ai déjà dit, à la grande aristocratie, la famille va se mobiliser, on va donner de l'argent, la plainte va être retirée, mais contre lui, il a, notre marquis, la justice commune, mais pour lui, la celle du roi, alors. Ben alors, il n'écope que de 6 mois de prison qu'il va faire, tout de même, avant de se réfugier dans son château de Lacoste. Et l'étonnant, c'est la manière dont il continue de mêler les affaires et la vie quotidienne. Le temps de célébrer la naissance de son second fils, Donatien Claude Arnaud, le voilà disparu. Il part pour la Hollande, probablement pour faire publier des textes interdits en France, et puis pour l'armée, où on refuse de le reprendre en tant que capitaine. Il vend sa charge, célèbre la naissance de sa première fille, Madeleine Laure, et se retrouve à Fort-l'Évêque pour dette, encore en prison. Un mois plus tard, il est libéré. Et il est ici, dans son château, à Lacoste, où il mène, enfin croit-on, une vie tranquille avec la marquise et ses 3 enfants, lorsqu'arrive Anne Prosper de Launay, sa belle-sœur, 19 ans, chanoinesse. Et que nous dit le marquis ? Sa démarche, pleine de grâce et noble, mais sans fierté. Sa gorge est telle que les peintres la prendraient pour modèle. Son teint, la blancheur de l'albâtre. On ne peut rien voir de plus séduisant. De grands yeux bleus, langoureux, exprimant la tendresse, des dents superbes pour orner une bouche fraîche et vermeille. C'est un objet accompli du côté des grâces et de la beauté. Et elle, que dit-elle à son beau-frère ? Je jure à monsieur le marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui.
Oh!
C'était donc la Cidarem Lamano, extrait de Don Giovanni de Mozart, et c'était Placido Domingo qui l'interprétait aux côtés de Kathleen Battle. Et au château, on buvait du champagne, bien sûr, ce qui nous permet de retrouver tout de suite Don Giovanni.
Alla la testa, la mia festa fa preparar, tengo in piazza quella ragazza, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza onor della razzia, chi minuendo, chi la follia, chi la levata, fa la vada, chi minuendo, va la vada, chi la follia, va la vada, chi la levata, va la vada, e io fa tanto del tuo canto, questa quella ovareggia, ovareggia, ovareggia. La mattina, una decina deve mandar, la venita, una decina deve mandar, sento in piazza qualche ragazza, tengo con quella, cerca me la. La venita, una mattina, una decina deve mandar, senza colore la razzia, chi mi duetto, chi la follia, chi la gambata, fa la me la. La venita, una mattina, una decina deve mandar, una decina deve mandar, una decina deve mandar, deve mandar.
C'était William Schimmel, Don Giovanni, en l'occurrence, qui interprétait l'air du champagne avec l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Riccardo Muti. Mais bien sûr que le vin de champagne coulait à flot dans des jaillissements de bulles moins légères encore que la nature de celles et ceux qui les buvaient la gorge renversée. Les soirées avaient recommencé à la Coste, où l'on donnait la comédie en même temps que le marquis finançait la restauration des 42 pièces de sa demeure sur la dot de sa femme. À la Coste, qu'il adore et où il se sent, de vous à moi, à tort, tout puissant, au-dessus des lois, on donne des pièces de théâtre qui sont signées de Chamfort, de Destouche, mais aussi de Diderot. Aïe. Diderot, c'est le fondateur avec d'Alembert de l'encyclopédie et ça n'a pas bonne presse auprès des instances qui surveillent notre marquis. Le premier tome de cette encyclopédie est paru 20 ans auparavant et le 17e, le dernier, vient de paraître cette même année, 1772, l'année de l'arrivée dans la vie du marquis de Sade, de sa belle-sœur Anne Prosper, qui est devenue sa maîtresse, alors que lui importe la police puisqu'il aime, qu'il est aimé de sa belle chanoinesse qui n'a pas résisté longtemps à son séducteur. Pourtant, l'amour vrai d'Anne Prosper ne suffit pas à calmer les ardeurs érotiques du marquis. Pas plus d'ailleurs que la tendre amitié toujours fidèle de la marquise, son épouse, et les affaires vont se succéder les unes après les autres jusqu'au moment terrible où, après, je vous le disais, avoir été arrêté, avoir soi-disant empoisonné des prostituées, etc., il va apprendre qu'il a perdu son procès. Et là, malgré l'argent de la famille de sa femme, malgré les relations de sa famille à lui, le verdict est terrible. Et il dit ceci: le disseur de Sade, convaincu du crime d'empoisonnement, et le valet Latour du crime de sodomie, sont condamnés, le marquis, à avoir parlé la tête tranchée, son valet à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et dès le lendemain, la sentence est exécutée dans tous ses détails sur la place des prêcheurs à Aix-en-Provence, à un tout petit détail près, ni Sade ni son valet ne sont là. Ce sont leurs effigies, grandeur nature, il est vrai, qui les remplacent. La présidente de Montreuil, sa belle-mère donc, a une fois encore, malgré sa rage après son gendre, fait intervenir ses relations et la justice du roi, et oui, l'a emportée sur celle ordinaire du chancelier. La peine de mort s'est transformée en amende, une petite amende de 100 livres pour le pain des prisonniers. 2 ans plus tard, fuyant toujours la police, mais toujours plein d'humour, notre marquis fuit avec l'amour de sa vie, c'est-à-dire sa belle-sœur, vers l'Italie, déguisé, devinez en quoi? En curé.
Hai già vinto la causa. Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se i pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi di Antonio, che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò va un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro felice un ferro mio. E un ben che ne van mai posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unita un fine oggetto in me desto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro felice un servo mio, vedrò che un bel mio desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unita un vile oggetto in me desto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò.
Toujours en compagnie de Mozart, c'est lui le divin, c'est pas le marquis. C'était extrait des Noces de Figaro, Hai già vinta la causa, et c'était Brinterfell qui l'interprétait avec l'orchestre de chambre d'Écosse sous la direction de Charles Maceras. Alors, eh bien, c'est la dernière affaire qui va lui être fatale, l'affaire dite des petites filles, de très jeunes filles qui ont été recrutées à Lyon et à Vienne et qui doivent servir au château. L'une d'elles sera blessée, le père portera plainte. Et tout ça va très très mal se terminer, mais il serait trop long de décrire les malheurs du marquis qui écrivait en prison les 120 journées de Sodome, dont l'histoire n'était pas terminée lorsqu'il va mourir, croyant avoir son manuscrit définitivement disparu. Eh bien, sa vie va continuer à bride abattue. Il se poursuit plus que jamais à vive allure, il est libéré par la Révolution qui abolit les lettres de cachet, mais il est condamné à mort par Fouquier Tinville, soutenu par Robespierre, qui déteste les hommes qui ne se tiennent pas comme il faut. Et puis, Robespierre va disparaître, il va être libéré, il va aimer une comédienne qui s'appelle Constance Quesnay, qui ne le quittera jamais, le temps de faire imprimer ses ouvrages. Et il est emprisonné par Bonaparte, qui, comme Robespierre, déteste les hommes qui sont libidineux, dit-il. Et donc, il va entrer en prison et l'empereur va l'y laisser. C'est donc à Charenton, où il donne tout de même la comédie, après avoir persuadé le directeur de lui prêter sa fille et de lui faire construire un théâtre où le tout Paris se précipite. C'est là, chez les fous, qu'il va mourir le 2 décembre 1814. Il a 74 ans, dont 27 passés en prison, et il ne pouvait pas savoir que 2 siècles plus tard, un bibliophile passionné, Monsieur Gérard L'Héritier, qui est le président du Musée des Lettres et Manuscrits à Paris, que vous devriez visiter parce qu'on y voit des choses bouleversantes, rachèterait le 3 avril dernier le fameux manuscrit pour 7 millions d'euros, le rendant ainsi à la France. Mais après sa mort, on fouilla dans la cellule du marquis et dans les tiroirs de sa table et on y trouva le portrait de son père, de l'un de ses fils et celui d'Anne Prosper Delaunay, la chanoinesse, sa belle-sœur, qu'il avait donc aimée pour de vrai. Nous avons commencé avec Mozart, nous allons terminer avec Mozart et c'est bien la moindre des précautions pour entourer notre sulfureux marquis de Sade. Nous venons d'écouter le sublime trio de Così fan tutte, Soave sia il vento, et on peut imaginer que c'était Madame de Sade et puis Anne Prosper, sa sœur et l'amante du marquis, et puis évidemment le divin marquis qui le chantait, et que c'était pour de vrai interprété par Kirite Kanawa, Anne Murray et Forlanetto, c'est le Philharmonique de Vienne sous la direction de James Levine et c'est une beauté absolue.